Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de Be My Guest. Plus gros producteur de moteurs au monde, Honda est un acteur majeur de la mobilité. Depuis sa création, il y a 70 ans, le constructeur japonais a l'innovation dans le sang et montre la voie à suivre aussi bien sur terre que sur mer et même récemment dans les airs. Pour en parler, je suis heureuse d'accueillir dans Be My Guest son meilleur ambassadeur, tout aussi intarissable qu'incollable sur le sujet, Monsieur Honda France, Steve Amselem. Bonjour Steve, merci d'être là.
Bonjour Stéphanie, merci à vous de m'accueillir et de nous permettre de parler de notre belle marque.
Alors Steve, tout d'abord un petit mot sur vous. D'où vous vient cette passion pour le constructeur japonais? Parce qu'à ce stade, on peut parler de passion, je crois.
Ouais, c'est même ce que je vous disais en off, de maladie, je pense, incurable, et tant mieux d'ailleurs. C'est d'abord une passion pour l'automobile, avec des études qui sont pas du tout en adéquation avec l'automobile, puisque j'ai fait l'étude d'expertise comptable, que j'ai assez rapidement abandonné pour bifurquer sur une école dans l'automobile qui se trouve au Mans, l'ISCAM. Beaucoup dans l'automobile connaissent cette école. J'ai commencé chez Maserati en Belgique, et j'ai suivi en fait le vice-président actuel de Honda France, Christophe De Culto. J'ai suivi Christophe dans ses bagages quand il a quitté Maserati pour Honda, quelques mois plus tard, pour intégrer la société, il y a bientôt 13 ans maintenant. Voilà, une vraie passion parce qu'on est motoriste, parce qu'on a des produits exceptionnels et parce que, comme vous le savez, on n'est pas présent uniquement sur l'automobile, mais dans à peu près tout ce qui roule ou tout ce qui est pourvu d'un moteur sur Terre.
Alors, je le disais en introduction, Honda a toujours un coup d'avance et c'est aussi le cas en matière de réglementation environnementale puisqu'en 2022, Honda a décidé d'abandonner le moteur thermique.
Oui, en fait, petit à petit, progressivement, on va abandonner le moteur thermique. Alors, quand on dit thermique, c'est le thermique seul, c'est-à-dire que 2022, on avait pour objectif, en fait, il y a quelques mois, 2025. En 2025, toute la gamme devait être électrifiée, c'est-à-dire moteur hybride, moteur hybride plug-in électrique ou hydrogène, c'est ça qu'on appelle la gamme électrifiée chez Honda. Et finalement, on a revu nos ambitions à 2022, on est passé de 2025 à 2022, ça a été annoncé en octobre l'année dernière au moment où on a dévoilé la Jazz hybride qui vient juste d'être lancée d'ailleurs. Donc à l'horizon 2022, toute notre gamme sera électrifiée, donc il y aura toujours des moteurs thermiques, mais ils seront forcément accouplés à des moteurs hybrides. Et l'électrique fait son apparition depuis un mois, et l'hydrogène, on l'espère, fera son apparition, roule déjà en Europe, mais fera son apparition prochainement.
Alors justement, l'électrique a fait son apparition il y a un mois avec une petite citadine. Alors je regarde rarement les citadines et encore moins les citadines électriques, mais alors là c'est un vrai coup de cœur, elle est extraordinaire je trouve, la Honda E, donc la toute première 100% électrique en Europe, chez Honda. Et pour la présenter, je voudrais commencer par un petit clip vidéo qui a été tourné juste avant le confinement avec le grand Dingo. Exact. Aux commandes, donc voyons voir déjà ce petit clip et on en parle ensuite.
Ok.
Vous avez raison d'être impatient. Rendez-vous sur réservé.honda.fr.
Alors, Monsieur Propre version Honda. Et pour en parler, ben, j'ai une surprise pour vous. J'ai Dingo qui nous a rejoint.
Génial.
Bonjour Dingo, merci d'être là.
Super, ça c'est une belle surprise.
Alors Dingo, il n'y a pas de micro. Faudrait... Hop, Dingo. Il faudrait mettre le micro. Dingo, on t'entend pas en fait. Oui, il n'y a pas de micro.
Ouais, ça y est, ça marche.
Ça y est,
super. Bonjour Dingo.
Excusez-moi.
Merci d'être là. Donc, on vient de voir le clip que tu as réalisé pour Honda, pour la nouvelle citadine électrique, la Honda E. Est-ce que vous pouvez nous parler tous les deux de ce tournage?
Qui
est quand même ça d'extraordinaire, c'est qu'on ne voit pas la voiture.
Super idée, parce que pour la première fois, c'est un circuit court de création. Entre moi, enfin, entre une idée qui se passe dans ma tête et la réalisation avec mon index droit, le chemin est très court entre Steve qui envoie un mail à son grand patron qui dit qui valide l'idée et on le fait direct. C'est révolutionnaire, ça pollue pas, c'est sympa, ça va très vite et puis ça fait un impact maximum. C'est grâce à Steve, voilà.
C'est grâce à toi, la communication. Ah, mais c'est grâce à toi aussi. Non, mais c'est, l'impact a été exceptionnel sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, on a sponsorisé toutes ces petites vidéos. On les a bien sponsorisées, c'est-à-dire qu'on a ciblé les personnes à qui on allait les pousser dans le fil d'actualité. Et le résultat, c'est plus de 13 millions de vues, ce qui est énorme. On n'avait jamais fait ça, nous, chez Honda. 13 millions de vues sur 8 vidéos avec la touche ultra humoristique à la dingo. Aucune des vidéos se ressemble, mais l'objectif est le même. C'est ça qui est très fin. Et ça a été un réel plaisir de travailler avec Dingo, il le sait, je lui ai dit 100 fois. Et ça sera encore plus de plaisir dans les prochains mois à retravailler ensemble, je l'espère.
Alors, ça a été fait avec trois fois rien, hein. Même les figurants, ben, c'est vous en fait.
Oui, effectivement, il y a une vidéo.
J'ai vendu la mèche ce matin. J'ai vendu la mèche en parlant ce matin. Elle me dit, mais qui est-ce qui passe dans la rue? J'ai dit, même là, ça, c'est le circuit court, on improvise les gens.
C'est ça, faut donner de sa personne. Même si j'étais bien camouflé, je dois dire, faut donner de sa personne. C'est aussi ça, l'avantage de travailler dans une marque comme Honda. Au-delà d'être une marque très familiale, c'est de l'artisanat. C'est vraiment de l'artisanat. Je veux dire, on se donne complètement à nos produits, à la promotion de nos produits. Et c'est ça qui fait la force de cette marque, c'est d'être vraiment au contact de ce qui est le plus important pour moi, l'humain et le terrain. Voilà ce qui compte. Dans l'automobile ou ailleurs, l'humain et le terrain, ça disparaît de jour en jour. Et nous, on fait partie des derniers défenseurs de ces priorités, l'humain d'abord.
Alors, même, tout était improvisé, en fait, le décor. Et Dingo me racontait tout à l'heure que les gens étaient même aux fenêtres de l'immeuble en train de regarder le tournage.
Ouais, c'est ça. Moi, je bloquais le trottoir quand Dingo shootait pour que les gens ne puissent pas passer, qu'on puisse pas les voir en fond. Alors, avec, ils me demandaient ce qui se passait. Un type qui est en costard-cravate dans la rue en train de passer l'aspirateur sur une place de parking de véhicules électriques. Enfin, c'était complètement dingue, quoi. Et en plus, il faisait très froid pour le coup. On croit qu'il faisait très chaud, mais il faisait très froid. À la fin de chaque scène, je remettais le manteau aux comédiens. Non, mais c'était super. Enfin, moi, c'est des souvenirs que je garderai. Il y a 8 vidéos au total. J'ai eu la chance de participer à quelques-unes des 8, notamment aussi dans une station-service du côté de Marseille. Ouais, c'est formidable, c'est génial parce que finalement, c'est vraiment du contenu humain. Voilà, c'est encore une fois, on est sur le terrain et on met en valeur la voiture qu'on n'avait pas au moment où on en parlait. La voiture n'était pas sortie. Il faut revenir 6 mois en arrière, en fait.
C'est ça qui est très fort quand même, hein, parce qu'on ne voit pas une seule fois la voiture, juste en image, tout à la fin.
C'est ça. C'est les seules images d'ailleurs que j'avais de la maison mère. J'avais rien de plus. On n'avait pas la voiture. On ne l'avait jamais vue, si ce n'est dans un salon en mode prototype ou alors dans un événement presse, mais on ne pouvait strictement créer aucun contenu. Donc, c'était ces images, pas de synthèse, c'était des images studio. Mais c'était pas la vraie voiture, quoi. On n'était pas dans la rue avec la voiture, quoi.
Oui, d'ailleurs, là, voilà la petite Honda E qui est vraiment ultra craquante.
Ouais, ouais. On est sur un produit très, 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 très design, très rétro, puisqu'on fait référence à des produits qu'on commercialise dans les années 70, la N600, la Civic première génération. Donc, ce côté très, très, très émotion, très passion. Et quand on monte à l'intérieur, l'idée, c'était de dire on reste chez soi, on reste à l'intérieur de la maison, en fait, puisque tous les matériaux utilisés à l'intérieur du véhicule sont des matériaux qu'on peut retrouver dans son salon, avec une particularité, on le voit sur cette photo, 6 écrans dans la voiture, à la fois les écrans de chaque côté qui sont les caméras extérieures, parce qu'il n'y a plus de rétroviseur, ça c'est de série sur le véhicule, et également 3 écrans en face du conducteur, et le rétroviseur intérieur également qui est un écran. Donc c'est une voiture qui est bourrée de technologie, on ne peut pas dire que c'est une voiture électrique classique, on a voulu faire une voiture électrique, mais fun, surtout fun, voilà.
Alors, justement, je vais vous montrer encore une photo de l'intérieur. Là, on voit le volant.
Ouais, l'ordinateur de bord, les différents écrans, la possibilité pour le passager de chercher une adresse, de la switcher sur l'écran du conducteur, pour pas qu'il soit déconcentré. Il y a également une intelligence artificielle qui va être délivrée sur tous nos produits à partir de la Honda E, mais qui est également disponible sur la Jazz, qui est en fait un OK Google, entre guillemets, c'est OK Honda. Et quand on prononce OK Honda, on peut demander ce qu'on veut à la voiture et elle apprend de nous en fonction de l'utilisation. On cherche un restaurant, on cherche à se garer, on cherche à appeler quelqu'un. Tout peut se faire avec la voix et ça fonctionne parfaitement bien. C'est ça qui est important.
Et donc là, on voit également le tout petit, la toute petite caméra qui remplace le rétroviseur.
C'est ça, la première citadine, je peux même dire le premier véhicule au monde, même si ce n'est pas vrai, parce que nos amis de chez Audi ont sorti la Audi e-tron qui est également disponible avec ses rétroviseurs, sauf que c'est une option chez Audi. Chez nous, c'est de série. La voiture n'existe qu'avec ses rétroviseurs caméra.
Alors, je vous montre encore quelques photos parce qu'elle est vraiment effornière, très, très belle. Elle est totalement donc électrique, on le rappelle. Hein,
oui.
Et la charge se fait sur l'avant, au-dessus du radiateur.
Oui, oui, ça encore, c'est une volonté des ingénieurs parce que ça reste une vraie marque d'ingénieurs. Je ne dis pas que dans les autres marques, on n'est pas ingénieur. Il y a des ingénieurs derrière toutes les voitures, mais c'est vrai que c'est toujours pensé pour la facilité à l'utilisation. On ne sait jamais si la borne se trouve à droite ou à gauche, donc on a décidé de la mettre au milieu. Comme ça, tout le monde est content. Beaucoup plus facile, effectivement, à charger. C'est quand même plus simple. Ça se recharge sur des chargeurs rapides à peu près 30 minutes. On recharge 80%, on va dire en 45 minutes, on a rechargé 100% du véhicule. L'autonomie est d'un peu plus de 220 km. C'est une citadine avant tout, qui peut s'avérer être routière sans problème. Moi, j'ai fait pas mal de routes avec. On a eu la chance de l'essayer en janvier à Valence avec notre ambassadeur Alain Bernard, champion olympique de natation. C'était super intéressant parce qu'il fait quasi 2 mètres et il tenait dedans sans aucun problème. On pourrait croire qu'elle est très étriquée, mais finalement, c'est...
Oui, ah bah oui, effectivement, on a... D'accord, c'est un vrai 4 places. Et elle fait quelle longueur? Parce que ça reste une citadine malgré tout.
On est à un peu plus de 3,20 m, si je ne dis pas de bêtises. J'ai pas la longueur en tête. Là, vous me posez une colle. C'est relativement court quand même. Attention, c'est pas du segment A, c'est du segment B. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur... je ne peux pas comparer à une marque concurrente, mais si vous voulez, c'est pas une petite citadine du segment A. Ça reste une segment B.
D'accord. Mais ça reste
petit, hein.
On peut parler également de prix, Steve ?
Oui, bien sûr. Alors, le prix, on débute… Alors, ça fait 3,89 m, pardon, excusez-moi, je confonds avec un autre produit. 3,89 m, la Honda E. Si on compare à la concurrence, on est donc en dessous des 4 mètres. Savoir que la Zoé, la BMW i3 et nos amis de chez Tesla sur le modèle 3, qui est beaucoup plus gros mais qui n'est pas vraiment comparable, sont au-dessus de 4 mètres. La Zoé et la BM sont à 4 mètres et un peu plus de 4 mètres pour la Zoé. Donc, on est à 3,89, un tout petit peu plus court. Au niveau du prix, oui.
Oui. Alors,
au niveau du prix, il y a deux versions. Il y a une version Honda E standard, il y a une version Honda E Advance. C'est 95% des ventes, ça va se faire sur l'Advance. On est aux alentours de 38 000 euros, auquel il faut retirer le bonus gouvernemental, merci l'État, de 7 000 euros, qui nous amène à 31. Mais c'est surtout des voitures qu'on achète en leasing, en loyer. Et aujourd'hui, on est positionné un tout petit peu au-dessus de 300 euros sur de la LOA. Donc, ça reste intéressant.
Alors, j'ai plusieurs questions pour vous, Steve. Alors déjà, le bonjour d'Anne-Charles à Dingo et Est. Et bonjour d'Alexandre Pinault également. On me demande si la pub de Dingo est sur le compte YouTube de Honda France.
Oui, oui. Alors bonjour à tous les deux. Oui, la pub est sur le compte YouTube, bien évidemment. Les 8 vidéos, en fait, il y a 8 vidéos au total. Elles sont toutes disponibles sur le compte YouTube Honda France Automobile.
D'accord. Et j'ai également Mundir Genou qui souligne que la capacité de charge de 80% en si peu de temps est impressionnante. La concurrence est-elle dans ce cas la Zoé, votre concurrente principale?
Je pense que c'est… Alors, peut-être pas la Zoé, mais la 208 électrique, la i208, oui, je pense. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, c'est une prouesse. Je pense qu'on est les seuls sur le marché à avoir 80% de charge en 30 minutes. Il faut savoir que c'est sur des superchargeurs. Donc, c'est beaucoup de puissance d'un coup. On recharge à hauteur de 80%. Elle n'est pas chargée à 100% pour la bonne et simple raison que les batteries, c'est pas fragile, mais on ne charge jamais en entier. Donc, les 80 premiers pourcents sont chargés en 30 minutes et les 20% qui restent sont chargés à peu près à la même vitesse qu'un chargeur classique, en fait. Mais je pense qu'on est les seuls sur le marché à proposer la rapidité de recharge. Peut-être que la i208 fait la même chose, il me semble.
Alors, récemment également, vous n'arrêtez pas de lancer de nouveaux modèles. Donc, après la Honda E, enfin, ou plutôt avant, ou entre les deux, il y a eu la Honda Jazz hybride.
Oui, oui, en fait, on est sorti du confinement avec trois nouveautés, en fait, puisque la Honda E a été en...
Non, on n'a pas chômé.
Non, mais bon, c'est vrai que ça tombe bien, parce que pour le coup, on a fait un super mois de juin, comme beaucoup de nos confrères d'ailleurs, il suffit de regarder les chiffres dans l'auto. On a fait un très beau mois de juin, on a vendu un peu moins d'une centaine de Honda E, et la fameuse Jazz Hybrid qu'on voit à l'écran, qui existe en deux versions, la Jazz Hybrid et la Jazz Hybrid Crosstar. Là, les photos que vous avez sous les yeux, c'est la Jazz Hybrid Crosstar, qui a un look beaucoup plus SUV, c'est pas un 4x4, hein, c'est pas un 4 roues motrices, mais n'empêche qu'elle a quand même ce design très SUV qui plaît beaucoup aux clients. Cette voiture, elle est sortie également au mois de juin et on en a vendu un peu moins de 600 sur le mois de juin, donc vraie réussite, totalement donc hybride et qui bénéficie de la technologie. Ça, c'est la version Jazz, voilà, ça c'est la Jazz Hybrid, donc qui est moins, voilà, et là la Crosstar devant le Moulin Rouge, magnifique cette photo. Donc effectivement, c'est une voiture qui bénéficie de la technologie hybride qu'on a lancée. Avec donc qui s'appelle l'IMMD, qu'on a lancé en janvier 2019, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, sur le CR-V hybride, qui a été miniaturisé pour rentrer, le CR-V c'est notre SUV, qui a été miniaturisé pour rentrer dans la Jazz, technologie très surprenante, avec une consommation exceptionnelle. En mixte, on est à 4.5, mais pour l'avoir pratiqué, avoir roulé avec à plusieurs reprises, je suis passé sans aucun problème sous la barre des 4 litres, avec des autonomies quand vous faites le plein qui frôlent quasi les 1000 km. C'est juste incroyable. Elle est incroyable, cette voiture, vraiment.
Donc là, on voit justement la Jazz Crosstar avec en concurrence donc, oui, avec votre pilote Pierre Gasly et donc la...
Alors c'est pas
la
pour
Alpha,
le fun.
Je vais y arriver là. Alpha Tauri.
Alors, c'est pas pour le fun de la photo. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se cache derrière cette photo. Il faut savoir que la technologie hybride qu'on utilise en Formule 1 bénéficie directement à nos modèles de série. Bien évidemment, elle fait pas 800 chevaux la Jazz. Par contre, cette technologie là est issue des progrès qu'on a pu faire en Formule 1. C'est un peu comme chez les constructeurs, hein, tous ceux qui utilisent en tout cas la Formule 1, c'est un laboratoire technologique qui nous permet aujourd'hui de proposer des technologies hybrides très performantes. Ça fait 22 ans qu'on travaille, qu'on commercialise de l'hybride, voilà Pierre Gasly, 22 ans qu'on commercialise des véhicules hybrides, et effectivement aujourd'hui on a totalement changé notre hybridation. Aujourd'hui on est sur un moteur électrique qui est accouplé à un moteur thermique. Le moteur thermique sert à recharger le générateur qui permet de recharger, enfin à faire tourner le générateur qui permet de recharger les batteries. Ce n'était pas le cas quand on a lancé l'hybride en 98. On était sur un moteur électrique qui était accouplé à un moteur thermique. Le moteur thermique était le principal. Aujourd'hui, on a un moteur électrique principal. Sur une Jazz, on est à 109 chevaux. Sur un CR-V hybride, on est à 184 chevaux. C'est le moteur électrique qui propulse en priorité la voiture et qui est aidé effectivement d'un moteur thermique. Mais toute cette technologie, c'est des années de travail en Formule 1 notamment.
Alors, j'ai une question de Nicolas Bertin qui demande si la batterie est louée également ou est-ce que c'est un achat intégral et bénéficie-t-elle, comme la Zoé, du chargement de la batterie en garantie en dessous de 75% de sa capacité?
Alors, la batterie, alors c'est différent de la Zoé, c'est pas du tout comme ça. Par contre, la batterie est vendue avec le véhicule. Donc, on n'est pas sur de la location de la batterie. La batterie est une partie, elle fait partie du véhicule. Et quand vous louez la Honda E, si vous choisissez le leasing ou si vous choisissez de l'acheter, bon, si vous choisissez le leasing, la batterie fait partie du véhicule. Donc, c'est différent de Renault.
Alors, vous avez évoqué, Steve, le CR-V qui avait inspiré donc le Jazz Crosstar.
Oui.
Donc, le CR-V qui est toujours... évidemment, sur le marché actuellement.
Oui, oui. Oui,
toujours d'actualité. Hybride, toujours hybride.
Oui, lancé en janvier 2019. Ça, c'est une magnifique photo à Séville. C'était l'endroit où on a lancé le CR-V pour la presse, qui est une voiture extraordinaire. Moi, je roule avec depuis un an maintenant, plus d'un an. C'est une voiture qui fait quasi une tonne 7, des consommations records. Je crois que je tourne autour de 5,5 litres tous les jours en prenant un bout d'autoroute et un peu de route. Sur autoroute, on est un peu plus de 6 litres. Après, ça ne se conduit pas comme une sportive, clairement. On a quasi 190 chevaux. Il y a une vraie sensation de conduite. Il y a des vraies sensations de conduite à son volant. Comme la Jazz Hybrid, on a cette sensation de tout électrique. Là, on est sur l'intérieur d'un CR-V essence parce qu'il a aussi, enfin, il a aussi existé en essence. Ça se reconnaît à la boîte automatique. Aujourd'hui, sur le CR-V hybride, on a plus de levier sur la boîte automatique. C'est des boutons, des simples boutons à avancer, reculer, comme une voiture électrique, très simple d'utilisation, avec une boîte ICVT, donc ça reste une boîte à variateur, les Japonais en sont friands, On l'a appelé la boîte ICVT sur ce CRV hybride. Voilà, des consommations records pour un produit qui est exceptionnel en confort, en silence. Et puis, ces sensations de conduite en tout électrique qui sont assez appréciables, en sachant qu'on a quand même un moteur thermique qu'il faut rassasier, allez, je dirais, tous les 800-850 km si on n'a pas de pied trop lourd.
Alors, l'hybride, c'est pas nouveau chez Honda. Je disais tout à l'heure que l'innovation, c'est dans les gènes du constructeur japonais. Ça date de quand, l'hybride, chez Honda?
1998, l'hybride. Alors, les prototypes, le travail de l'hybride, c'est, je pense, même avant les années 90, on pensait déjà à hybrider les modèles. On est arrivé peut-être un petit peu trop tôt sur le marché. On va peut-être dire aussi que notre concurrent direct a été peut-être un peu plus fort que nous en termes de communication, en tout cas en Europe, parce que aux États-Unis ou ailleurs, ça a fonctionné correctement. Je pense que le marché n'était pas encore prêt aussi. Aujourd'hui, le marché est prêt. On a un panel de véhicules hybrides et ça va aller en s'accentuant forcément. Tous les produits qui vont être modifiés, qui vont être relancés, toutes les nouveautés, nouveaux HR-V, nouvelles Civic, tout ce qui arrive dans les deux prochaines années seront hybridés. Peut-être même la Civic Type R, notre fameuse sportive Civic Type R. Donc, ça date de 98, commercialisée en 98. Voilà.
Alors, j'ai encore des questions, décidément. Il y a beaucoup de questions sur la Honda E. Donc, Mundir qui voudrait savoir quels sont les types de câbles utilisés, CHAdeMO, type 2, combo, CCS, et quelle durée de charge à la maison avec une prise standard.
Alors, les câbles, on est sur type 2 et combo également. Donc, ça va être le même câblage que la Zoé, si je ne m'abuse. Donc, type 2 et combo. À la maison, on est de toute façon, on va être sur de la prise classique. On est entre 12 et 18 heures. Voilà. Mais il faut compter en gros une nuit de recharge pour être à 100% sur une prise classique. Après, on est associé à deux partenaires, ChargeGuru et
ZPlug.
Et ZPlug, exactement, qui se déplacent directement chez les clients à la commande. Ils sont contactés donc, par ces sociétés et se déplacent directement chez les clients pour proposer des solutions. Alors, quand c'est dans des maisons, mais même dans des copropriétés, ça se voit sans problème aujourd'hui, pour proposer d'installer des chargeurs. Alors à différents prix, ça va aller du chargeur classique qui n'est pas badgé Honda au chargeur Honda. Donc c'est le package, c'est-à-dire que vous achetez la voiture, on ne vous laisse pas tomber. Derrière, il y a ces sociétés partenaires avec qui on travaille qui peuvent installer des systèmes de recharge chez vous en version grosse recharge ou en superchargeur ou en chargeur classique.
Alors justement, ces deux sociétés partenaires, il faut le souligner quand même, sont deux startups françaises.
Oui, tout à fait. Startups françaises, c'est des gens qui sont très professionnels, qui sont très réactifs pour avoir déjà un tout petit peu travaillé avec eux parce que c'est vraiment les débuts. On prévoit d'ailleurs créer beaucoup de contenu avec nos clients qui installent des bornes chez eux directement. Ils sont super réactifs et ça fait plaisir de voir ça parce que il faut être réactif avec l'électrique. Souvent, on se confronte aussi à des installations en ville qui sont pas encore assez, pour moi, à mon goût, même sur Paris, qui sont pas encore assez développées, qui sont souvent en panne, des usagers thermiques qui utilisent des places des voitures électriques. Donc, il va falloir que ça évolue, mais que ça évolue vite parce que les constructeurs, pas que Honda, on évolue très vite. On nous demande de nous adapter, on s'adapte. Derrière, il faut que ça suive.
Alors, on a encore un modèle qui est juste absolument exceptionnel. C'est la superbe NSX.
Ah, là, là. Alors, ça, c'est 2016. Ouais, c'est magnifique. C'est 2016. C'est une voiture qui a été longuement attendu, c'est la supercar de chez Honda, 581 chevaux, 4 moteurs. On s'est dit pourquoi en mettre un, on va en mettre 4. 4 moteurs, voilà. Donc un moteur en position centrale arrière qui est un 3 litres 5 V6 qui développe un peu plus de 500 chevaux, qui est accouplé à un moteur électrique de 48 chevaux. Et il y a également deux moteurs sur les roues avant, un sur chaque roue qui développe chacun 37 chevaux. Donc au total 581 chevaux pour une voiture qui abat 0 à 100 en moins de 3 secondes. Qui est une prouesse technologique qui a été dessinée, ça va vous faire plaisir Stéphanie, cette voiture a été dessinée par une femme, Michelle Christensen, une américaine, puisque la voiture est produite aux États-Unis, c'était une de ses premières voitures et je pense qu'elle ne s'est vraiment pas ratée. La voiture a été commercialisée à une vingtaine d'exemplaires en France, un peu plus de 235 en Europe. C'est une voiture exceptionnelle, elle est hybride, c'était à l'époque, il y a 4 ans maintenant, la supercar hybride de série. On était les seuls sur le marché au moment où on a sorti ça. Et les concurrentes, c'était plus Audi R8 ou BMW i8, même si la i8 est sur 3 cylindres, c'est un peu différent. C'est une voiture extraordinaire. Voilà, je peux pas vous dire mieux. J'ai eu la chance de beaucoup rouler avec ce véhicule. Moi, j'aime cette marque parce qu'on sait commercialiser des produits qui vont de 499 € sur des générateurs thermiques jusqu'à 240 ou 245 000 € pour des produits comme la NSX qui débute en dessous de 200 000 mais qu'on optionne généralement. On aime bien mettre du carbone sur ces voitures ou des freins céramiques comme on peut le voir sur la photo. Voilà, c'est tout le savoir-faire Honda du plus petit produit au plus impressionnant, même si c'est pas le plus impressionnant. Vous savez, il y en a un autre, mais ça se passe dans les airs.
Alors, vu la puissance de la voiture, évidemment, on la retrouve également, la NSX, sur les circuits.
Oui, alors celle-ci, elle n'est pas hybride. Elle est juste derrière moi, d'ailleurs, dans ma vitrine, la GT3.
Ah, on regarde la vitrine.
Voilà, la GT3. J'ai été la voir rouler, d'ailleurs, à Spa-Francorchamps en 2018, avec quelques très bons pilotes dessus. Esteban Guerrieri, Ricardo Patrese, ancien pilote F1. Loïc Depailler aussi, grand nom. Très grand nom, qui a fait d'ailleurs une course superbe, et Bertrand Baguette, qui est le pilote officiel NSX GT3 au Japon. Cette voiture, par contre, n'a pas la technologie hybride, du coup, elle perd, parce que bon, dans le règlement de la GT, il n'y a pas de technologie hybride, elle perd, je crois qu'elle fait 540 chevaux, si je ne dis pas de bêtises, mais elle perd beaucoup de poids de par l'hybride, et elle est entièrement en carbone, autant vous dire que c'est un vrai spectacle sur la piste.
Alors, il y a, bon, on l'a pas encore évoqué, mais la Clarity hydrogène, parce que on parle beaucoup, d'électrique, d'hybride, mais l'hydrogène, on le sait pas d'ailleurs, souvent on ne le sait pas, c'est également de l'électrique. Et oui. vous êtes aussi sur le secteur. Et je voudrais montrer une vidéo pour prouver que ça fait très très longtemps que vous y êtes. Et donc, c'est celle-ci.
Les ingénieurs Honda ont présenté en 1999 le prototype FCX pour Fuel Cell Experimental. Le principe est simple, au contact de l'oxygène de l'air, l'hydrogène produit de l'eau H2O et de l'énergie électrique. Une pile à combustible gère cette réaction et apporte le courant jusqu'au moteur électrique de la voiture. Au final, un véhicule à hydrogène est semblable à une voiture électrique où la pile à combustible et sa réserve d'hydrogène comprimé sont une mini-usine embarquée de production électrique, l'équivalent de la batterie au lithium. Les autres avantages de l'hydrogène sont le rechargement, qui ne demande que 5 minutes, et l'autonomie plus importante qu'un véhicule à batterie.
Alors effectivement, on peut le dire, l'hydrogène, c'est l'avenir.
Oui, c'est l'avenir. Aujourd'hui, je pense que l'hybride, je ne suis pas le seul à penser ça, mais je pense que c'est vraiment la charnière entre le thermique et l'hydrogène, qui est clairement l'avenir. Nous, on travaille dessus, comme le disait dans la vidéo, depuis 1999, effectivement, avec des prototypes. Première commercialisation de la FCX Clarity en 2009 aux États-Unis et au Japon sous forme de leasing. D'ailleurs, on avait quelques artistes qui roulaient avec à l'époque, Jamie Lee Curtis qui roulait avec la FCX Clarity. C'est un petit clin d'œil à une actrice que j'aime beaucoup. La technologie hydrogène, c'est très simple, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, c'est de la propulsion électrique munie d'une pile effectivement à combustible, utilisant le plus souvent effectivement l'hydrogène comme combustible réducteur, on va dire. C'est une voiture qu'on attend avec impatience, qui est déjà commercialisée sous forme de leasing dans les pays du nord de l'Europe. Donc nos collègues notamment du Danemark ou de la Norvège, dispose déjà de ce véhicule. Il fait partie de la stratégie d'électrification pour Honda à l'horizon 2022 en Europe.
Donc là, vous avez sorti la Clarity.
Oui, voilà, c'est celle-ci, donc qui est au catalogue dans certains pays d'Europe du Nord. J'ai eu l'occasion de conduire celle-ci et la précédente. Alors, c'est bluffant parce que c'est aussi silencieux que l'électrique. Peut-être un tout petit peu plus bruyant parce qu'il y a la bonbonne et le gavage en air à l'accélération qui est légèrement plus bruyante. Il y a des petits trucs sympas. Bon, le CX de la voiture est vraiment étudié pour une pénétration optimale dans l'air et une réduction totale pour gagner le maximum de consommation, on va dire, parce qu'on parle quand même de consommation, avec une autonomie d'un peu plus de 500 km. Ça, c'est le Prince Albert, dans l'ouverture du Grand Prix de Monaco, je pense il y a deux ou trois ans, qui avait essayé le véhicule. L'ensemble, l'intérieur du véhicule est assez marrant, parce qu'il y a une drôle d'odeur quand on rentre, qui est plutôt sympathique comme odeur, mais tous les matériaux à l'intérieur du véhicule sont éco-citoyens, on va dire. C'est-à-dire qu'on a renouvelé, il y a un certain nombre de matériaux écologiques, notamment au niveau des sièges. On a utilisé du maïs ou des choses comme ça, donc c'est assez marrant. Hein. C'est pas un pop-corn géant, hein, mais c'est assez sympa. On va dire que l'intérieur est très travaillé et il y a vraiment un côté éco-citoyen très important dans cette voiture.
Oui, ce qu'on retrouvait chez Fisker il y a quelques années également, avec les, les bois flottants et les bois flottés, ouais, etc. Vraiment, c'était assez étonnant. Donc là, je vous montre voilà, le système
hydrogène avec la bonbonne qui se trouve à l'arrière du véhicule, on la distingue bien. Ça prend pas énormément de place finalement, le coffre reste quand même assez grand, c'est aussi un des points forts de la marque Honda, notamment sur l'automobile, c'est l'habitabilité de nos voitures et souvent des très grands volumes intérieurs. On pense souvent que les voitures sont petites comme la Honda E et quand on s'assoit dedans, on se rend compte que finalement, il y a de la place. Donc, c'est souvent un trompe-l'œil. Effectivement, cette voiture, on l'attend avec impatience et effectivement, on peut dire aujourd'hui que ça fait partie de l'avenir de l'automobile.
Alors, elle est prévue pour quand en France ?
On n'a pas de date à l'heure actuelle. Elle fait partie de la stratégie d'électrification à l'horizon 2022. Elle roule déjà, comme je le disais, dans certains pays en Europe. Mais c'est pas encore, il y a pas de date prévue.
D'accord. Alors, il y a un de nos spectateurs, Kivar, qui posait la question. Il était surpris que la NSX ne fasse pas partie d'une marque haut de gamme comme Lexus chez Toyota. Mais vous l'avez, cette marque haut de gamme, sauf que la NSX n'en fait pas partie. Et cette marque haut de gamme, c'est justement l'Acura. Oui. Et vous venez de sortir un nouveau modèle, la TLX.
Vous me faites mal avec cette photo. J'en rêve de cette voiture. Alors oui, effectivement. Alors pour la petite histoire, pour répondre à votre internaute, la NSX est badgée Honda en Europe. Par contre, elle est badgée Acura aux États-Unis et au Canada. Oui, il faut donc Acura, c'est la marque haut de gamme de Honda, comme Infiniti ou Lexus pour nos concurrents et nos amis directs. C'est la marque haut de gamme commercialisée aux États-Unis et au Canada. On rêverait que ça le soit en France, on rêverait que ça soit en Europe. Beaucoup de clients en rêvent, moi le premier. Malheureusement, on n'est pas du tout sur des marchés capables de proposer ce genre de produit parce qu'on est principalement sur des V6 thermiques, donc des grosses motorisations qui sont malheureusement un peu tabassées entre guillemets par le malus. Je vais faire de la politique et j'aime pas ça, mais effectivement c'est le cas. Ça c'est le TLX, donc l'Acura TLX, qui est donc une grosse berline, c'est l'équivalent de la Honda Accord, je pourrais même dire de la Honda Légende, peut-être un peu plus petite que la Légende, qui est exceptionnelle, la vraie berline de luxe sportive Honda commercialisée aux USA. Mais effectivement, la NSX aux États-Unis, elle est fabriquée aux États-Unis, la NSX, et elle est badgée Acura aux États-Unis, et pas Honda.
Alors, elle a quand même quelque chose de particulier, cette Acura TLX, c'est qu'elle est la toute première à avoir un airbag qui enrobe la tête.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Incroyable.
C'est vrai, mais là encore, c'est beaucoup de travail sur la sécurité. Et on a un centre de recherche, un de nos centres de recherche et développement au Japon, à Toshigi, assez marrant d'ailleurs, fait 1 kilomètre de long. Alors imaginez un bâtiment sur plusieurs étages avec 1 kilomètre sur chaque étage d'open space. C'est assez sympa. Donc il y a un gars qui travaille sur le rétroviseur, il y en a un qui travaille sur un volant, il y en a un qui travaille sur la sécurité, etc. Donc effectivement, il y a cet airbag qui enveloppe la tête. Et d'ailleurs, ça me fait penser que sur la Jazz, il y a également un airbag centrale dans le véhicule, c'est tout nouveau. Quand on a sorti la Jazz il y a un mois maintenant, dans le communiqué de presse, on parlait d'un airbag central. Au total, il y a une dizaine d'airbags dans la Jazz. Voilà, on revient dessus. Il y a une dizaine d'airbags dans cette voiture, dont un airbag au centre du véhicule, ce qui lui permet d'avoir bien évidemment les 5 étoiles au crash test Euro NCAP. Mais effectivement, sur la Acura, c'est toujours cette recherche de sécurité maximum chez Honda qui nous pousse à aller chercher des technologies, des nouvelles technologies, des nouveaux systèmes de sécurité. On travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la sécurité. Ouais, c'est impressionnant ça.
Alors, j'ai également toujours Kivar qui attend avec impatience qu'on parle un peu de moto et je crois que vous avez une nouveauté en matière de moto parce que Honda, c'est d'abord une moto au départ parce que quand Soichiro Honda a créé la marque, il est parti d'un vélo en fait,
oui,
il y a
70
ans et il y a mis un moteur et c'est comme ça que la marque Honda Moto est née et la voiture est venue par la suite.
C'est ça, mais il a commencé à son adolescent, je dirais, à motoriser un vélo avec un moteur électrique, vous savez, de radio d'après-guerre. C'est comme ça qu'il a commencé. Alors, la marque Honda est née en 48. D'abord, effectivement, avec la moto, puisque l'auto est arrivée en 1963. Donc, c'est d'abord la moto. Effectivement, on sort un nouveau produit chez Honda. Enfin, c'est le produit du moment, c'est la Fireblade. Donc,
qui a un nom incroyable. Alors, attendez, je vais essayer de... La CBR 1000. Et puis, alors là, c'est comme le moteur.
C'est ça. C'est
avec
ça.
R.
R-R-R-R. Très légère, très puissante. Non, c'est une superbe machine. Elle était très attendue sur le marché du deux roues. Et elle est là. On a commencé les essais presse très récemment, il y a à peu près un mois et demi, je pense. Ça va être le fer de lance sportif de la moto, mais faut pas oublier tout ce qui reste derrière. On est aux alentours de un peu plus de 26 000 euros pour cette nouvelle moto. Faut pas oublier tout ce qu'on a derrière à la moto, une gamme très étendue, beaucoup plus étendue que l'automobile, avec une notoriété en France qui est plus à faire, notamment pour la Honda Goldwing, les 125 cm3, toute la partie également la nouvelle Rebelle. On a énormément de produits. Je ne pourrais pas tous les détailler parce qu'on n'a pas le temps, mais on a énormément de produits à la moto. Voilà. Et cette RR en fait partie. 4 cylindres en ligne, 4 temps, 16 soupapes. C'est une vraie bombe. C'est une vraie, vraie bombe. On a une puissance réelle sur le produit. J'ai des collègues qui l'ont essayé. On a des pilotes qui l'ont essayé. Je crois qu'on est en fond de 4 à quasi 300 km/h. Bon, c'est pas un engin à mettre dans toutes les mains, je pense. Mais ça va être, je pense que le gros de nos ventes là-dessus, c'est, je pense, 90% des ventes, ça va être des pistards, des personnes qui vont l'utiliser sur la piste.
Alors, on me demande si Honda est le leader en moto.
Non. Alors, si on prend l'année 2019, non, on est deuxième. Mais on n'était pas très loin de Yamaha, je crois à 320 immatriculations près. On n'était pas très loin de Yamaha. Je pense qu'on aurait sans problème pu être leader l'année dernière. Il aurait fallu faire ce que font beaucoup de constructeurs, c'est-à-dire immatriculer quelques unités supplémentaires pour aller toucher la première place. Mais ça, c'est aussi une vraie mentalité, une vraie valeur Honda. On sera leader quand on aura mérité, entre guillemets, d'être leader et qu'on aura réussi à faire nos immatriculations clients et qu'on aura dépassé notre ami Yamaha. Mais on n'est pas leader, on est deuxième du marché au global.
Par contre, Honda est donc le plus gros constructeur de moteurs au monde. Je crois qu'il y a 31 millions d'unités fabriquées tous les ans. Oui. Et je le disais en introduction, donc Honda est sur Terre, mais Honda est aussi sur mer. Et avec notamment ce Honda Marine BF250.
Oui, moteur V6. C'est le moteur de la légende, pour ceux qui ont connu la légende. C'est un moteur de légende, en fait, à l'origine. C'est un V6 qui a été adapté dans un moteur de bateau, donc qui développe 250 chevaux, qui est le plus gros moteur aujourd'hui chez Honda. Là, on le voit avec une livrée blanche. Depuis un an maintenant, il est disponible avec une coque en blanc, plutôt sympa aussi. Habituellement, c'est vrai qu'on voit des moteurs... Généralement, moi, quand je passe sur un port ou que je vois des bateaux, je regarde tout de suite le moteur. S'il est gris clair, c'est souvent du Honda. C'est la déformation professionnelle. Vous savez, quand je suis sur les marchés l'été en Provence ou quoi, je regarde souvent les groupes électrogènes qu'il y a derrière les petites guérites qui vendent des saucisses ou des choses comme ça. Moi, je suis plus intéressé par ce qui se passe derrière plutôt que par ce qui se passe devant. Donc voilà, et souvent, je dis d'ailleurs aux commerçants qui n'utilisent pas du Honda que c'est de la très bonne machine et que s'ils veulent changer, c'est un problème. Mais voilà, donc c'est effectivement... Un produit exceptionnel, c'est le plus gros produit moteur, mais ça, on commence sur des tout petits moteurs, on a une gamme moteur bateau qui est très très étendue.
Alors Kivar me demande si vous faites que le moteur sur les bateaux ou est-ce qu'il vous arrive de construire un bateau en entier également?
Eh non, ça on fait pas encore. Par contre, on est partenaire de certains fabricants comme Ranieri, comme Highfield par exemple pour les semi-rigides. On est partenaire à nouveau encore cette année avec Highfield par exemple. On va fournir d'ailleurs plusieurs dizaines de moteurs, je crois que ça se compte même en cinquantaine de moteurs dans le cadre du Vendée Globe à la fin de l'année, qui vont équiper des moteurs qui vont équiper des semi-rigides, notamment des high-feed. Mais on fait pas encore les bateaux. C'est une bonne idée, ça. On pourrait peut-être travailler à faire des bateaux.
Alors, vous êtes vraiment partout. Alors, sur les routes, sur la mer, mais vous faites également de l'équipement pour la maison. Oui. Et notamment, le petit dernier de la gamme, c'est un robot tondeuse.
Oui, tout à fait. Le Mimo.
Il y a aussi les tondeuses et là, c'est un robot.
Alors, ça fait plusieurs années qu'il existe. Il a évolué avec le temps. Il y a surtout différentes versions qui sont catalogues aujourd'hui pour des terrains qui vont de 400 mètres carrés jusqu'à plusieurs milliers de mètres carrés. Le petit dernier, c'est le 400 mètres carrés, donc c'est le petit Mimo. En fait, c'est tout simple. Tondre, je pense que c'est jamais très marrant. Moi, j'en rêve parce que je suis pas en maison, mais peut-être qu'après un an ou deux ans dans une future maison, j'en aurais peut-être un petit peu marre de tondre. Effectivement, Mimo, tond pour vous.
Surtout si c'est ce type de maison. Là, vous pouvez avoir toute une escadrille de mimos.
Exactement. Alors, c'est très simple. C'est un fil enterré qui fait le tour du périmètre qu'on a choisi. Et la mimo tourne en permanence, donc tond en permanence. Quand elle a besoin de recharger, elle retourne naturellement sur sa base. Ça existe depuis plusieurs années maintenant. Ça a fait ses preuves. C'est un produit qui est très sympa. Et effectivement, on vient juste de sortir la version petit terrain de 400 mètres carrés, qui est d'ailleurs disponible en dessous de 1 000 €. On est à 999 euros.
Alors, il y a Kivar qui dit que de là à faire un robot aspirateur, il n'y a qu'un pas. Donc, dans les aspirateurs également.
Ou alors un robot souffleur de feuilles, puisqu'on a aussi des souffleurs à disposition.
Et j'ai l'as de trèfle qui dit, oui, vous allez mettre les jardiniers au chômage.
Ouais, c'est pas faux. On a toujours besoin des jardiniers quand même. C'est complémentaire aux jardiniers, surtout sur des gros terrains. Voilà.
Tout à fait. Donc, on a vu l'équipement maison, on a vu la mer, on a vu bien sûr l'automobile et la moto. Et là, tout à l'heure, y avait quelqu'un qui demandait si vous fabriquez des bateaux en entier. Pas encore. Par contre, vous avez construit un avion.
Oui, oui. Alors ça, c'était le rêve de Soichiro Honda, le créateur de la marque, qui malheureusement nous a quittés en 91. Son rêve, c'était de voler. D'ailleurs, il volait lui-même, sans permis d'ailleurs, je viens de préciser, maintenant c'est la prescription, et il volait sans licence au Japon. Il s'est même accroché une fois avec son avion dans des câbles électriques. Enfin bon, c'est toute une histoire incroyable. Mais son rêve, c'était de voler, et on l'a fait. En 86, on a lancé une société, Honda Aircraft Corporation, donc qui est basée aux États-Unis, qui a été réellement lancé quelques années plus tard, donc à Greensboro en Caroline du Nord. Aujourd'hui, on commercialise depuis quelques années un avion du moteur au fuselage. C'est du Honda. Bon, faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Les moteurs sont développés par Honda en collaboration avec GE Aviation, qui sont des experts dans l'aéronautique. C'est le Honda Jet. C'est le plus beau produit Honda aujourd'hui dans la gamme, un peu plus de 4 millions d'euros. Pour un jet privé, donc qui fait partie, quand je dis jet privé, c'est vraiment un jet d'affaires, des petits avions à réaction. Donc c'est un segment très particulier qui peut emmener de 4 à 7 personnes et qui peut être piloté par une seule personne. Voilà.
Concurrent de Dassault.
Oui, c'est pas un concurrent direct d'Assaut, parce que Dassault, c'est des avions plus gros. Par contre, ce que je sais, ce que j'ai entendu, et je pense que c'est vrai, c'est que le fils de monsieur Dassault a volé avec l'avion et l'a trouvé exceptionnel. Il a aussi un ensemble de tableaux de bord Garmin totalement digital, tactile. Enfin, je pourrais vous en parler dans une autre émission, parce qu'en fait, pour rien vous cacher, je vais le voir pour la première fois de ma vie dans quelques heures, puisqu'avec Honda, demain, nous allons créer un contenu dans un endroit que je tiendrai secret pour le moment, un contenu assez important de photos et de vidéos sur cet avion, qui est en fait le Saint Graal. Il y en a un seul en France qui appartient à un propriétaire privé, et 19 en Europe, pour être très précis. Il s'en est vendu 200 dans le monde à aujourd'hui, et on en livre un toutes les semaines. Voilà.
Alors, il a aussi une particularité, c'est que les réacteurs sont sur les ailes.
Oui, ça, c'est une particularité qui est vraiment spécifique à cet avion, qu'on ne retrouve pas sur d'autres avions. Le but, c'est bien évidemment de réduire la traînée aérodynamique. Ça nous permet d'ailleurs de consommer, de ce qu'on m'a dit, alors j'en saurai vraiment plus tout à l'heure, mais 10 à 15% de consommation en moins par rapport à la concurrence, notamment à haute altitude. Il peut voler au-dessus de 13 000 mètres, ce qui n'est pas commun. Et effectivement, c'est une prouesse technologique, une de plus, et celle-ci, elle se passe dans les airs. Vous comprenez la fierté qu'il y a à travailler pour cette société quand on commercialise des produits d'exception comme ça.
On me demande également l'autonomie en kilomètres.
Alors, il y a deux versions. Il y a une version, qui est la photo que vous venez de montrer, il y a une version élite qui est disponible depuis 2018. On est à peu près un peu plus de 2000 km sur la première version et 2600 sur la version élite. Mais il faut savoir qu'en vol, en utilisation moyenne, on est entre 1600 et 2000 km d'autonomie à peu près. Voilà. Avec une pointe à 800 km/h, si je ne dis pas de bêtises. Mais l'avantage, c'est vraiment qu'il peut voler très haut par rapport à d'autres avions.
Alors, on est vraiment au niveau mobilité, c'est tout azimut. Hein, vous êtes partout, j'ai envie de dire, à part dans la maison avec les aspirateurs. Mais Oui, quand est-ce que, oui, bonne question. Quand est-ce que vous invitez Stéphanie dans ce jet? Bah, vous passez me prendre, je suis sur votre route.
Eh ben, avec plaisir, avec plaisir. On aura une place de libre normalement si tout va bien. Puis l'intérieur est exceptionnellement luxueux aussi. On est sur un jet privé, donc on est sur un intérieur très haut de gamme. Avec, il est tout petit le jet, j'insiste vraiment là-dessus. Des toilettes, un lavabo, enfin, je veux dire, il y a tout à l'intérieur. J'espère juste qu'il y a du jus de tomate, voilà, parce que j'adore le jus de tomate en avion.
Là, quand même, si dans ce type d'avion, il n'y a même pas un jus de tomate dans le bar, là, c'est…
Là, je serais déçu, je peux vous le dire.
Alors, on parlait donc de mobilité. Qu'en est-il des véhicules autonomes chez Honda? Oui. J'ai vu passer un article sur une collaboration entre Honda et General Motors aux États-Unis.
Ouais, c'est un travail. Là encore, on est associé à une société de technologie très performante sur les hautes technologies. C'est pas qu'on veut faire ça tout seul, parce que déjà un, on n'est pas les meilleurs. Deux, c'est toujours mieux de s'allier sur ce type de projet, surtout que c'est des choses qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc effectivement, on travaille comme beaucoup d'autres amis dans l'automobile ou ailleurs sur ces projets de véhicules autonomes. On a déjà, entre guillemets, alors je ne peux pas dire que c'est autonome, c'est plutôt semi-autonome. On a déjà des produits semi-autonomes comme la Civic, comme le CRV. Il y a plus de 10 ans maintenant, mon premier véhicule de fonction était une Honda Accord chez Honda. Elle était déjà, entre guillemets, semi-autonome, c'est-à-dire qu'on a tout ce qui est lecture de bande au sol, franchissement de ligne, etc. Ça peut paraître aujourd'hui un acquis, on va dire, sur les produits qu'on peut acheter sur le marché. Nous, ça fait plus de 10 ans que ça existe. Et aujourd'hui, c'est très développé. Je pense aussi. Alors, le but, c'est pas de lâcher le volant quand on roule, bien évidemment. Ça assiste le conducteur. Très sincèrement, mais ça, c'est tout à fait personnel. J'espère en aucun cas qu'on sera obligé de lâcher le volant un jour, parce que le plaisir, c'est aussi le plaisir de conduire. Mais effectivement, il est bon de travailler sur ces opportunités qui s'offrent à nous, parce qu'on peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce qu'il faut savoir aussi proposer des produits à l'ensemble de nos clients qui n'ont pas toutes les mêmes envies.
Alors, on me demande s'il y a une usine Honda en Europe.
Alors, usine Honda en Europe, oui, Swindon en Angleterre et également en Turquie, on a une usine qui fabrique la Civic 4 portes. Swindon, c'est Civic. Malheureusement, il n'y a pas de tabou, cette usine fermera l'année prochaine au mois de juillet. La raison est simple, on peut dire que c'est effectivement le Brexit, mais ce qui n'est absolument pas le cas. La raison de la fermeture principale de l'usine de Swindon, c'est que toute la technologie hybride sur nos véhicules est fabriquée au Japon aujourd'hui. C'est un savoir-faire japonais. Je compare souvent ça à Coca-Cola. La recette, on ne la connaît pas. Nous, notre recette de l'hybride reste au Japon, en tout cas pour l'instant. Et tous nos produits vont, comme je vous l'ai dit, être électrifiés d'ici à 2022. Donc, tous seront hybrides, en grande partie, bien sûr, électriques aussi, mais hybrides. Cette technologie est fabriquée au Japon. Donc, effectivement, l'usine fermera l'année prochaine, comme l'usine en Turquie d'ailleurs. Après, je ne vous cache pas que le Brexit a forcément un petit peu à voir là-dedans, mais effectivement, on a des usines en Europe. Mais on a surtout une usine en France, j'insiste là-dessus, c'est celle-ci qui est importante aujourd'hui, qui est une usine d'assemblage de produits jardin, qui assemble notamment le Mimo et tous les produits tondeuses, souffleurs, taille-haie, électriques à batterie. On est associé avec Bosch sur cette partie-là. Et cette usine est à Orléans, à côté d'Orléans. Voilà, donc, et cette usine existe depuis plusieurs décennies aussi. Voilà, donc on a une usine en France.
D'accord. On me demande également si Honda n'a pas peur d'être acheté par un grand groupe.
Alors, ça fait 72 ans maintenant que l'histoire Honda dure et on est totalement indépendant. Non, je ne pense pas. Très honnêtement, quand on voit la force de la marque, quand on voit ce que ça génère en chiffre d'affaires, forcément c'est important, il ne faut pas l'oublier, au niveau mondial, 31 millions de moteurs, plus gros motoriste au monde. Je pense que ce n'est pas demain la veille. En tout cas, très honnêtement, je ne vois pas comment ça pourrait arriver. Tout peut arriver. Hein. Je veux dire, rien n'est acquis, mais ce n'est pas demain la veille.
Est-ce que Honda fait encore du diesel?
Non, alors quasi plus. On a encore quelques stocks de Civic diesel. On n'a jamais été un très gros dieseliste, puisqu'on est arrivé sur le marché du diesel en 2000, dans le courant des années après 2010. Ouais, si je dis pas de bêtises, un peu avant, pardon, 2005, excusez-moi. 2005, sur le diesel, ça a jamais été un très, très gros morceau chez nous. Bien évidemment, on a profité de l'essor du diesel, notamment sur les Civic ou sur les CRV. Mais aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Le dernier moteur, c'était un 1600 ID.Tech, qui est un moteur diesel, qui était donc très présent sur la Civic. On en a encore un petit peu en stock, mais c'est terminé.
Une autre question. Quel volume de tondeuse vendu?
C'est une bonne question. Je crois que tout produit, je ne saurais pas dire le volume précis de tondeuse, mais tout produit jardin, on doit être entre 150 et 170 000 unités, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, on est au-dessus de 150 000 unités, en France, je parle.
En France seulement?
Ouais, d'accord. En France.
D'accord. Pour terminer, je voudrais quand même mettre l'accent, parce que vous êtes innovant au niveau de la technologie, bien sûr, mais vous êtes aussi assez innovant en communication, je trouve. Très dynamique, ça c'est une certitude, mais aussi innovant. Et je suis tombée sur une vidéo que je ne connaissais pas et j'ai trouvé juste absolument extraordinaire. C'est le jour où vous avez décidé de transformer les fans de la marque en concessionnaires. Ah oui, alors, et là c'est juste du lourd et je voulais vous montrer cette vidéo. Donc c'est avec le CRV.
Oui.
Bon, je vais vous montrer la vidéo, on en parle ensuite.
Oui.
Je m'appelle Jean-Baptiste, passionné de Honda depuis une vingtaine d'années et possesseur d'un Honda CR-V. Ma passion pour la marque, elle vient sûrement du sport auto. Petit, je regardais toutes les courses de F1 avec Ayrton Senna. Et puis, il y a aussi mon père qui est mécanicien. C'est comme ça que ça a commencé, j'étais fasciné par la technique. Ma toute première Honda, c'était une moto. Et puis, petit à petit, je suis allé vers l'auto. On m'a proposé de transformer mon garage en concession, j'ai accepté sans hésiter. En réalité, c'est comme si j'étais déjà concessionnaire. C'est moi, par exemple, qui ai convaincu mes parents, mes beaux-parents de rouler en HRV.
Comme Jean-Baptiste, des millions de conducteurs connaissent nos véhicules aussi bien que les concessionnaires. On s'est alors dit que les fans Honda étaient les mieux placés pour présenter nos véhicules. Voilà pourquoi on a décidé de transformer leur garage en concession. Aujourd'hui, on est vraiment fiers d'accueillir Jean-Baptiste dans la grande famille des concessionnaires Honda. Et j'ai hâte de le voir faire essayer notre gamme de SUV à tout son voisinage.
Incroyable. Vous aussi, vous avez vendu des Honda à vos parents et à vos beaux-parents.
Ouais.
Comme Jean-Baptiste.
Ouais, j'ai une liste sur mon téléphone. Je dois être à quasi une cinquantaine de Honda. La dernière étant livrée à ma belle-mère la semaine dernière. Donc, voilà. Comme ça, non, mais bon, c'est toujours plus facile de vendre un produit sur lequel, enfin, auquel on croit, surtout, et puis qui est fiable. J'ai pas forcément envie d'avoir des retours de panne, de ceci, de cela. Donc, effectivement, nos produits sont très fiables. Ça, c'est une force de la marque Honda. La deuxième force, c'est d'avoir des clients formidables chez Honda. Et c'est aussi le point de départ de la vidéo qu'on vient de voir. Qui mieux qu'un client Honda pour parler de Honda? En fait, c'est aussi simple que ça. Nos clients sont encore plus piqués que nous de la marque. Ils roulent dans les voitures de la marque, de certains depuis 40 ou 50 ans. C'est la seule marque au monde, vous voyez, quand un... Moi, j'étais chef de région pendant des années sur le terrain dans le nord-est de la France. J'ai un client qui est tombé gravement malade. J'ai été le voir à l'hôpital. On fait de l'épicerie dans cette marque. On connaît nos clients.
Et de l'humain.
Et de l'humain. C'est hyper important. Et le point de départ de ce Honda Next Door, puisque c'était le titre de la campagne, c'était de dire qui mieux que nos clients pour vendre, entre guillemets, nos Honda ou pour en parler. Souvent, quand on va en concession, on tombe sur un commercial. Alors, il y a à boire et à manger dans toutes les marques. Mais s'il sent que la personne est plutôt chaude pour acheter une voiture, il va essayer de lui mettre au maximum, d'essayer de lui vendre. Forcément, c'est son job, on ne peut pas lui reprocher. Donc, peut-être avec moins d'écoute. Là, pour le coup, on ne va pas acheter une voiture. On va voir un client qui roule en Honda depuis des années, qui connaît très bien la marque, qui va gagner strictement rien du tout. Il n'a pas de commission sur la vente et qui va en parler comme un client qui roule en Honda depuis toujours. Et JB, enfin, je l'appelle JB parce que forcément, on est devenus amis avec le temps. Mais Jean-Baptiste, c'est vraiment... un de nos meilleurs ambassadeurs. Ils étaient 9 au total. On a gardé contact. D'ailleurs, on les a même invités il y a 2 ans au Grand Prix de France au Castellet. C'est formidable. Il y en a certains que j'ai encore au téléphone quasi une fois tous les trimestres. On s'appelle. On a gardé des contacts assez forts avec ces clients. On avait transformé leur garage en concession aux 4 coins de la France. Et bon, c'était très marketing, je ne le cache pas. C'était un coup marketing puisque quelques mois d'ailleurs après, on sortait la garantie 1 million de kilomètres aussi avec un de nos clients.
J'aime beaucoup les questions.
Voilà. Voilà. Donc, en fait, on a vraiment, à une époque, on a, et on continue à le faire, on met nos clients au milieu de, au milieu de la marque. C'est eux les piliers de notre marque, c'est nos clients. Si on n'a pas de clients, on n'a pas de marque, quoi. Je veux dire, elle n'existe pas. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on est super fiers. En tout cas, moi et Honda France, on est très fiers de nos clients et on les met en avant parce que c'est nos meilleurs ambassadeurs.
On va t'arrêter sur ces bonnes paroles, Steve. Surtout, je sais que vous devez prendre la route. Oui. Avec quel véhicule?
Avec le train. Bon. J'aurais dû descendre en CRV, mais le lieu de tournage est assez loin. Et bon, je n'ai pas forcément envie de me fatiguer. Le train, c'est pas mal, ça va assez vite, on peut travailler dedans. Peut-être qu'un jour, on fera des trains, on ne sait jamais.
J'allais vous dire, bientôt une locomotive Honda.
C'est une bonne idée, pourquoi pas. Merci en tout cas.
Merci beaucoup, Steve. Bon. Et merci à tous d'avoir suivi sur Facebook, Periscope, Twitter et YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore, Steve.
Merci, Stéphanie.
C'était passionnant.
Merci. À très bientôt. Ouais, merci en tout cas d'avoir donné la parole à Honda. Et ça a été un vrai plaisir de partager avec vous et les internautes. Merci beaucoup.
Plaisir partagé. Merci, Steve.
À bientôt.
À bientôt.